Chapitre 14. Un petit rayon de soleil de rien du tout. Les bonhommes ont travaillé jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Lentement, la chambre forte s'est vidée. L'or, les diamants, les rubis ont quitté la cave du palais pour s'entasser dans les chariots. Malgré leur petite taille, ces gnomes étaient d'une force surprenante. À la fin, il n'est plus resté au fond du coffre qu'une unique pièce d'or que Zafar a ramassée avec un ricanement, fait sauter dans sa paume et jeté dédaigneusement par-dessus son épaule en déclarant « Ils ne pourront pas dire que j'ai tout pris puisque je leur laisse cet écu. Mais à partir d'aujourd'hui, ils vont devoir apprendre à faire des économies. » Puis, il a soigneusement ajusté son masque pour se protéger des rayons du jour et tourner le dos au coffre dont il a claqué la porte d'un coup de pied. Dès qu'il a été parti, j'ai glissé dans ma poche la pièce d'or qui était tombée à mes pieds. Puis j'ai pris le chemin des écuries. Une idée commençait à germer en moi. Dans la cour d'honneur, les chariots remplis d'or se mettaient en branle. Ils étaient si lourds que les chevaux avaient bien du mal à les arracher à leur immobilité. Ça m'arrangeait. De cette manière, il me serait plus facile de rattraper mon retard. J'ai sellé mon cheval. Lorsque le dernier chariot est sorti du parc pour gagner la grande route, je l'ai suivi de loin. Une fois quitté le palais, j'ai lancé ma monture dans la forêt afin de me déplacer parallèlement au convoi sans être vu, la broussaille et les arbres formant écran. Les charrettes progressaient avec lenteur. Zafar se tenait sur celle qui allait en tête. Il maniait le fouet d'un geste impatient, car le soleil perçait derrière les nuages. À l'idée de voyager en plein jour, exposé aux rayons destructeurs, il devenait de plus en plus nerveux. Bien sûr, il aurait pu, comme ses congénères, s'allonger au fond d'un coffre, à l'abri de la lumière, et laisser les bonhommes se charger du convoyage. Mais je suppose qu'il n'avait pas confiance en eux. En outre, en cas d'interception par une patrouille de mousquetaires, il comptait sans doute forcer le passage en arguant de sa qualité de premier ministre qui n'a de compte à rendre qu'au roi. Mon petit cheval trottait bien. Dissimulé derrière l'écran de feuillage, j'ai très vite dépassé le chariot de tête. Zafar s'était enveloppé dans un long manteau de cuir noir. Il avait tiré sur sa tête un capuchon qui lui donnait l'allure d'un prêtre satanique. En fait, à part la lumière, il n'avait pas grand-chose à redouter. Personne ne se lancerait à sa poursuite, et comme il avait pris soin de refermer la porte du coffre avant de partir, Bézélius et les ministres ne pourraient en aucun cas deviner que le trésor du royaume avait disparu. J'ai galopé jusqu'au carrefour des trois routes. Là, je me suis embusqué derrière une statue de granit. Des fontes de ma selle, j'ai sorti un lance-pierre qui faisait partie de mon équipement. La dernière pièce d'or au creux de ma paume, j'ai attendu que le convoi s'approche. Le soleil brillait à présent de tout son éclat. Il était mon principal allié. Qu'un nuage vienne à le cacher et je serais perdu. Quand le chariot de tête a enfin atteint le carrefour, j'ai glissé la pièce d'or dans l'élastique du lance-pierre et j'ai bondi hors de ma cachette. « Hé, Zafar » ai-je crié. « Fais-moi un joli sourire, c'est pour la photo. » Le vampire s'est figé en entendant ma voix. Il a tourné la tête dans ma direction. C'est exactement ce que je souhaitais. J'ai lâché l'élastique et la pièce s'est envolée à une vitesse prodigieuse. Elle a frappé le masque de porcelaine en plein front, le faisant éclater comme une coquille d'œuf. L'horrible visage de l'homme chauve-souris est apparu en plein jour. Pas pour longtemps. Zafar a poussé un cri étranglé. Il a eu un geste pour se cacher la tête sous sa cape de cuir, mais il était déjà trop tard. Ne croyez pas ce qu'on vous montre dans les films. Les vampires ne gigotent pas pendant une heure avant de s'enflammer. En réalité, à peine la lumière du soleil a-t-elle effleuré leur peau qu'ils explosent et tombent en cendres. C'est ce qui s'est passé. D'un seul coup, les vêtements de Zafar n'ont plus été emplis que de poussière grise et se sont affaissés sur le sol en tas. À la même seconde, l'armée des bonhommes a suivi le même chemin. Tous les gnomes qui se préparaient à me bondir dessus se sont changés en poussière, et le vent de la plaine en a saupoudré les champs des alentours. Privés de conducteurs, les chevaux ont choisi de s'arrêter pour grignoter l'herbe. J'ai ramassé la pièce d'or qui avait tué Zafar pour la glisser dans ma poche. Contemplant les débris du masque de porcelaine, j'ai dit « Souvenir ». Voilà, voilà. Ensuite, j'ai regagné le palais, juste à temps pour voir s'enfuir les chats noirs qui vivaient jusqu'alors dans la galerie des statuettes de porcelaine. J'ai compris que le maléfice avait pris fin et que tous les ennemis du premier ministre avaient cessé d'être bibelots pour reprendre forme humaine. Tant mieux! Au moins Amandine pourrait s'appuyer sur des gens honnêtes pour faire le ménage à la cour. Je descendais tout juste de cheval quand la princesse a dévalé l'escalier pour m'accueillir. Le pouvoir du vampire s'étant éteint, elle était sortie du sommeil maléfique qui l'avait accablée ces derniers jours. « Merci, merci » a-t-elle sangloté. « Sans toi, j'étais perdue. » Je lui ai conseillé d'envoyer ses soldats récupérer les chariots d'or abandonnés sur la route. Et là, il s'est produit quelque chose d'amusant. Figurez-vous que lorsqu'on a voulu ramener le trésor royal dans la chambre forte, on s'est aperçu qu'au moment de s'enfuir, Zafar avait poussé la couronne de fer au fond du coffre, d'un coup de pied, et claqué la porte. Vous voyez où je veux en venir ? La couronne était enfermée dans le coffre-fort. Or, sans elle, personne ne pouvait résoudre l'énigme commentant l'ouverture de la serrure. Ça impliquait que la chambre blindée resterait fermée pour l'éternité et que les souverains du royaume des sortilèges allaient devoir s'acheter une autre couronne. J'ai trouvé ça marrant. Paul. Bref, Amandine s'est rendue sur la berge de l'étang maudit pour prononcer le mot magique révélé par les sirènes. Cette fois, le roi est sorti de la boue. Il avait l'air encore plus accablé que de coutume. À croire qu'il regrettait d'avoir été ramené parmi les vivants. Ses ministres se sont empressés de lui raconter les événements survenus en son absence. Il a hoché la tête distraitement. De grandes réjouissances ont salué son retour. On m'a décoré de l'ordre de la licorne bleuâtre et la princesse m'a offert une très jolie bague. Je ne me suis pas sentie à mon aise dans le tourbillon des fêtes qui ont suivi. À présent que je ne lui servais plus à rien, Amandine avait tendance à m'oublier pour danser jusqu'au vertige entre les bras de jeunes officiers. Ça ne m'a pas surprise. Alors, sans rien dire à personne, j'ai récupéré la valise dans le cabinet rouge et je suis rentrée chez moi. Poppy était toujours plongée dans la lecture des aventures du docteur Squelette, génie du crime. En me voyant passer, elle a marmonné. « T'es pas encore partie ou t'es déjà revenue ?» De retour à la maison, j'ai sorti la carte postale ensorcelée de sa cachette et j'ai commencé à résumer dans la partie réservée à la correspondance, ce qui m'était arrivé au cours du voyage. Mes parents ont été très impressionnés. Voilà, j'ai rangé la pièce d'or, la bague et la licorne bleuâtre dans mon coffre à souvenirs. Je vous embrasse tous. Sûrement qu'on se reverra dans une prochaine aventure. Bien affectueusement, votre Nouchka.